Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Bon, en d'autres temps, elle se serait appelée Morgane, aurait vécu dans la forêt de Brocéliande, aurait eu des pouvoirs et aurait guéri Lancelot et le roi Arthur. En 2017, elle s'appelle Nolwenn. Elle les a, les pouvoirs. Une voix hypnotique, une grâce, un feu intérieur qui la rendent unique. Nolwenn Leroy sort son 6e album, des mélodies pop. Au texte onirique, il a pour titre « J'aime », G-E-2-M-E, et cet album lui ressemble. Il est lumineux. Bonjour Nolwenn.
Bonjour.
Alors, chère Nolwenn, vous livrez dans des interviews, c'est ce qu'on vous demande depuis à peu près 15 ans, mais le 11 juin 2015, la très prestigieuse Université d'Oxford, la plus ancienne université britannique, vous a invité à parler de votre carrière devant ses étudiants. C'était à quelle occasion ?
Alors c'était à quelle occasion ? C'était pour une masterclass en fait, où les professeurs de français à Oxford invitent des artistes français. Alors il me semble que Laurent Voulzy avait été faire un tour là-bas, et puis il a une passion en plus pour l'Angleterre, il y vit également, donc c'était un peu logique qu'il se rende à Oxford aussi. Il me semble que Francis Cabrel est venu aussi, il me semble que Thomas Dutronc est venu, et j'ai eu la chance et le privilège, l'honneur d'être convié aussi, donc à faire cette masterclass devant les étudiants qui donc apprennent le français, et puis également de partager le repas, le souper là-bas dans cette grande salle. Cette grande cantine, on va dire, mais qui est l'endroit où a été tourné, le lieu où a été tourné Harry Potter.
Voilà.
Où il y a les grandes tables comme ça, où le réfectoire, en fait. Et là, le soir, on a dîné là-bas, tout le monde avec les toges, enfin, à Oxford, hein. Et c'était incroyable. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. Et j'ai fait tout le tour de l'université, de toutes les universités d'Oxford, des différentes universités. Et je me suis rendue, voilà, là où était Tolkien, enfin, tous les personnages
qui
m'ont passionné, et de me dire qu'il était prof là-bas. Enfin voilà, plein d'anecdotes comme ça extraordinaires. Mais j'ai vécu vraiment le temps s'est arrêté là-bas à Oxford. Et j'ai dormi dans une petite chambre là-bas dans le dortoir à Oxford où ils avaient héberger justement les invités d'Oxford où justement enfin il y a plein de personnages incroyables qui avaient été invités auparavant, qui avaient dormi là-bas, enfin bon, et j'ai chanté aussi également, mais sur le coup c'est vrai que
vous
je me
avez
suis demandé
chanté,
ouais, je me
à
suis
cappella.
Dit ouais, bah non, je suis venue avec mon guitariste, donc on a fait un petit showcase aussi, on en a profité, mais c'est vrai que c'était fou parce que oui, enfin de se dire qu'il y avait Tolkien, qu'il y avait Lewis Carroll, qu'il y avait enfin
le père
de voir
au pays des merveilles,
bien sûr, qu'il y avait la petite porte là justement qui lui a inspiré la petite porte d'Alice, de tout le petit monde d'Alice au Pays des Merveilles.
Ouais,
enfin, bon, tous ces petits détails là, enfin voilà, j'avais l'impression d'être complètement dans un autre monde, et j'oublierai jamais ce week-end à Oxford. C'est dingue, et c'est vrai que on comprend lorsque l'on a la chance de pouvoir rentrer, d'intégrer cette université, ben que on a envie de travailler dur, on a envie d'y rester et de réussir, parce que c'est un privilège quoi,
de
pouvoir être intégré, d'aller dans les bibliothèques, d'étudier, d'ouvrir ses livres, c'est...
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Lewis Carroll, le père d'Alice au Pays des Merveilles, qui a étudié à Oxford. Et justement, il y a 3-4 ans, vous avez déclaré à Libération, moi je suis une sorte d'Alice Dark. Vous trouvez que notre époque manque de magie, de rêve, de spiritualité?
Même si Alice, selon les degrés de lecture, est très dark.
Oui, oui.
Mais effectivement, oui, non, mais tout à fait. Non, j'ai toujours ce côté un peu, peut-être un peu... pas sur cet album, parce que justement, le nouvel album est extrêmement optimiste et lumineux, mais en règle générale, je suis plutôt, enfin, pas forcément quelqu'un de sombre, mais plutôt pessimiste, et puis mais fascinée par le gothique, alors le gothique romantique et lumineux, pas par le gothique trop dark, mais les poètes du dark, Edgar Allan Poe, Baudelaire, Tim Burton, enfin toute cette imagerie aussi qui accompagne tous ces artistes, oui, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours, et puis au-delà de ça, les mythes et légendes aussi, et par tout ce petit monde aussi de l'obscur aussi. Depuis toute petite, j'ai les contes et légendes de tous les pays. J'ai grandi là-dedans, en fait.
Même Olivier de Kersauzon trouve que, qui fait partie de vos fans, Nolwenn Leroy, même Olivier
aussi,
de Kersauzon
fait partie de son fan club,
trouve que vous n'êtes pas tout à fait de notre époque, parce qu'il y a en vous une dimension mystique d'un autre temps, onirique en fait, une fascination pour l'impalpable, la magie, les légendes. Et alors ça nous amène bien sûr au titre du nouvel album, J'aime, G-E, 2-M-E. Il paraît que vous collectionnez chez vous
des gemmes, donc des pierres, qui ont le pouvoir de diffuser des ondes positives.
Oui, alors des pierres, des gemmes. J'aimerais collectionner des gemmes parce que, enfin, les gemmes, c'est des pierres précieuses à travers lesquelles passe la lumière. Donc, ça va être le diamant, le saphir, l'émeraude. Alors, j'aimerais collectionner les gemmes parce que ça veut dire qu'on a des pierres. Non, toutes les pierres que j'ai ne sont pas des gemmes. Oui, non, alors j'ai bien sûr une fascination pour les pierres, pour les minéraux. Mais au-delà de ça, c'est pour tout ce qu'ils symbolisent aussi, plus que le pouvoir des pierres sur la santé, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais je suis pas une grande spécialiste. Non, c'est plus par rapport à l'album, tout ce que la pierre symbolise, finalement, ce que la pierre est à la base de tous les mythes et légendes de toutes les civilisations. Finalement, on retrouve la pierre dans toutes les religions aussi. La pierre a toujours une place très importante. La pierre a toujours un côté magique, mystique, et aussi bien dans le monde celte. La pierre est très importante, les dolmens. Enfin, il y a toujours un côté magique associé à la pierre. Et c'est ça qui me fascine. Et puis aussi toute la symbolique de l'intériorité, du socle qu'est la pierre aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose aussi... Ça, c'est quand même
de la
une
densité.
Symbolique très très forte et qui aussi arrivait après tout un cycle dans ce que j'ai pu présenter jusqu'à présent, après les animaux et le cabinet de curiosité, l'océan avec
le ciel,
Breton,
l'eau, voilà, maintenant la terre.
Exactement.
Alors justement, maintenant la terre, vous avez tourné le clip du titre J'aime dans la grotte de Lavaine-Armand en Lozère,
oui.
Une grotte qui est classée au patrimoine de l'UNESCO.
Ouais.
C'est vous qui en avez eu l'idée ?
Oui, c'est moi et ma maman qui s'occupe de toute l'identité visuelle qui accompagne mes projets, tout ce qui est donc de l'ordre des clips, des pochettes d'albums, et qui est ma boîte à idées, et qui a eu cette idée folle, parce que c'est vrai qu'il y a eu très peu de clips et très peu de, même, je suis même pas sûre qu'il en existe, des clips tournés dans une grotte. Moi, à ce moment-là, en plus, bon, j'étais quand même
enceinte.
Très, très, très enceinte. Donc, descendre à moins 120 mètres sous terre en pleine nuit, tourner de 23h à 7h du matin, alors que la veille j'étais à la fête de la musique à Toulouse, il faisait 32 degrés à minuit, et puis là le lendemain il y avait un choc thermique entre la chaleur de la veille et le
aucune
et
crainte
le
de ne pas avoir d'hôpital à proximité.
Moi je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance que voilà, c'était quand même rock'n'roll, hein. mais c'était fabuleux parce que me se retrouver dans un endroit comme cette grotte-là, en plein milieu de Gévaudan. C'est extraordinaire. Vraiment, par rapport à ce que je vivais aussi à ce moment-là, c'était la symbolique et l'image par rapport à la grossesse aussi, à la grotte. Enfin, il y avait toute une histoire. Et moi qui ai du mal à me livrer sur ma vie personnelle. Et c'est vrai que les deux sont arrivés en même temps. Et je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour tourner le clip? Et moi qui m'expose tellement peu, en général, pour tout ce qui est de l'intime et de... Et puis là, les deux étaient liés, donc bon, voilà.
J'ignorais complètement que c'était votre mère qui prenait en charge, en fait, la direction artistique des images, des vidéos. Depuis combien de temps ?
Je travaille en famille, depuis le début. Depuis le début, c'est vrai que voilà, c'était, elle était qualifiée pour ça. Il serait plutôt que
elle
de travailler avec des étrangers.
Elle est diplômée de l'école du Louvre,
c'est vrai,
votre maman. C'est une esthète.
Bah oui, et puis c'est vrai qu'elle me connaît mieux que personne, et plutôt que de travailler avec, c'est génial de travailler en famille. Souvent, on le voit chez plein d'artistes. Je sais que Mathieu Chédid travaille en famille, mais même à l'international, Beyoncé travaille en famille, plein de monde. C'est au-delà du fait qu'ils soient qualifiés, c'est aussi, ils nous connaissent mieux que n'importe qui. Donc c'est vrai, voilà, c'est quand même très agréable, et ça facilite le travail et puis les échanges et tout, quoi. Et c'est vrai qu'elle a eu une excellente idée pour cette grotte, et j'ai adoré tourner dans la grotte avec cette danseuse extraordinaire entre Gollum, je dirais presque du Seigneur des Anneaux,
voilà.
Et à la fois cette fée qui vient m'offrir cette gemme. Enfin voilà, c'était un personnage, la fée de la grotte, la fée bienveillante.
C'est en compagnie de Nolwenn Leroy qu'on se balade cet après-midi, et on va voyager loin. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Le nouvel album de Nolwenn Leroy, dont on a déjà tous en tête le premier extrait, a pour titre J'aime, G-E-2-M-E. Il lui ressemble. Il est puissant, lumineux, onirique. Je reçois la très étonnante Nolwenn Leroy. Alors, chère Nolwenn, vous êtes... j'ai envie de dire que vous êtes une compétitrice née, une chopeuse d'opportunités qui n'a jamais passé sa chance et qui gagne toujours. Le premier concours que vous avez remporté, Eh ben, il vous a amené jusqu'à Tombouctou. Vous avez 13 ans. Il était organisé par une chaîne d'hypermarchés et il vous a permis donc ce prix de partir au Mali pendant 2 semaines auprès de missions humanitaires. Le deuxième concours, il vous a fait décrocher, grâce au Rotary Club, une bourse qui vous a emmené jusqu'en Ohio, n'est-ce pas, où vous avez étudié pendant 1 an à Cincinnati. Ouais. Et puis le troisième concours, eh ben voilà, c'est la Starac que vous avez remportée, alors que en fait, on vous avait choisi pour être l'héroïne de la comédie musicale de l'année, mais vous avez préféré la Starac. C'est ça aussi le talent de savoir cibler.
C'est à chaque fois des, pas un heureux hasard, mais justement, je suis pas du tout une bête de concours et ou de casting, puisque je n'en avais jamais fait auparavant. J'habitais en province, j'avais pas aucune connexion à Paris, j'avais pas les sous pour courir les castings à Paris. Donc sincèrement, pour le casting, c'était vraiment parce qu'à un moment donné, on a emprunté la caméra au voisin et puis presque. Et puis je me suis filmée un peu à l'arrache dans ma salle de bain parce qu'il y avait une bonne acoustique, à chanter une chanson. Et j'avais 2 cassettes et j'en ai envoyé une justement à l'époque à Starac et une autre à cette comédie musicale. Et les deux m'ont répondu positivement. Mais c'était la première fois de ma vie que je participais à un casting. Personne ne m'avait jamais vu un casting. Jamais.
Je reste sur cet aveu. Les deux vous ont répondu positivement. Généralement, les producteurs de comédie musicale voient à peu près 200, 300, 400 jeunes filles. Vous envoyez une cassette, on vous veut. Et je crois que j'avais vous veut.
Mais j'avais ce côté un peu torturé et puis romantique aussi qu'ils recherchaient pour justement jouer Scarlett à ce moment-là. Donc, c'était incroyable d'avoir cette réponse-là. Et puis Starac aussi. Et puis auparavant, après, c'était autre chose. Là, c'était le Rotary. Bon, c'était des notes qui étaient pas mauvaises, surtout en langue. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir, d'être sponsorisée parce que j'avais pas les sous pour aller étudier à l'étranger comme ça. Donc, être sponsorisée par le Rotary, c'était fabuleux. Et ça reste une année qui a bouleversé ma vie et mon destin. Et puis, le Mali, là, c'était encore autre chose. Et je remercie ma maman parce qu'elle m'avait un peu aidée, parce que moi, j'étais un peu nulle en dessin et elle m'avait un peu aidée. C'était un concours de dessin. Et du coup, je lui dois beaucoup sur ce concours.
La maman de Noël qui a dessiné.
Eh oui, parce que c'était un voyage humanitaire extraordinaire et qui a aussi bouleversé ma vie pour d'autres raisons. On est parti de Gao à Tombouctou à la rencontre des enfants au Mali, à distribuer des fournitures scolaires lorsque j'avais 15 ans et c'était un voyage extraordinaire.
Mais voilà. Vous êtes toujours celle qu'on choisit.
Et, oui. Et à la fois l'anti-candidate aussi, parce que j'étais tellement loin de tout ça et tellement pas une bête de casting, comme je disais, parce que j'avais tellement pas le profil en fait. Tellement pas le profil. Et c'est justement parce que je n'avais pas le profil et que j'étais pas formatée, justement, comme on pourrait l'imaginer. Je sais pas. Encore aujourd'hui, je me pose la question.
Alors, Nolwenn, à première vue, le dénominateur commun entre Alessandra Sublet, entre la nouvelle top modèle française, Tilan Blondeau, M. Pokora, et vous, il saute pas, franchement, aux yeux. Il existe pourtant ce dénominateur commun puisque vous avez tous un père qui était une vedette du football professionnel.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Comme si, en fait, démarquer était déjà dans les gènes. Au départ, votre père, il a quitté sa famille quand vous aviez 11 ans. Est-ce qu'on se construit finalement autant contre qu'avec? Est-ce que son absence vous a appris à résister?
C'est une bonne question. Parce que on me la pose pas souvent dans ce sens-là. Et puis, comme je parle jamais de ma vie privée, et familial, mais c'est vrai que sous cet angle, oui, je vais y répondre parce que ça a forcément joué. Je pense que j'aurais pas cette force et j'aurais pas ce caractère qui est le mien aujourd'hui. Et le fait de tracer mon chemin, de résister, de ne pas me laisser abattre, de rebondir, si je n'avais pas eu ce chemin de vie aussi, je pense que je sais pas si il n'était pas parti justement. Est-ce que j'aurais eu ce destin-là? Est-ce que j'aurais fait autant de musique? Est-ce que je me serais raccrochée à la musique comme je me suis raccrochée à la musique parce que c'était aussi un exutoire, une façon d'apaiser mes peines à un moment donné. Certainement, je me suis complètement lancée là-dedans et ça me faisait du bien de chanter. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ma voix et à chanter. C'est à ce moment-là en fait de ma vie. Et puis après aussi parce que ma maman écoutait beaucoup de musique, ma maman m'a emmenée au cours du conservatoire, de violon, de chant, de chorale, de solfège.
C'est vous qui avez choisi le violon?
Ah oui. Et oui, parce que ma grand-mère avait un violon à la maison, on n'avait pas de piano et puis ça coûtait cher aussi d'acheter un piano. Et le violon était là, disponible, le violon de ma grand-mère. mais j'ai une professeure au collège, à chaque fois lorsqu'on faisait des examens de flûte et après de chant, alors la flûte bon c'était la galère, et puis le chant, et là au moment où je chantais, alors chacun chantait à son tour, et là tout le monde se taisait lorsque je commençais à chanter, et moi c'était terrible parce qu'à chaque fois j'avais mal au ventre, j'aimais pas ça, j'avais pas confiance en moi, en plus j'avais peur de chanter, de... Et du coup, tout le monde s'arrêtait. Et la prof, à la fin, me dit, ouais, mais, elle me dit, tu sais que si tout le monde arrête de parler quand tu chantes, c'est parce qu'en fait, c'est bien quand tu chantes. Et à chaque fois, j'avais des bonnes notes, bien sûr. Mais elle me dit, t'as conscience de ça? Et de, est-ce que tu fais de la musique en dehors du collège? Je dis, bah, non, chante pour moi, dans ma chambre, avec mon radio cassette laser. Mais non, je prends pas. Elle me dit, elle me disait, Madame Brun, que je remercierai toujours, me dit, mais ça serait bien que tu t'inscrives à l'école de musique, au conservatoire, que tu prennes des cours et que tu commences un instrument parce que t'as une très bonne oreille. Bref, et c'est là où tout a commencé. Je me suis inscrite au violon et puis
le
et puis
piano.
Voilà.
Vous avez même
le piano par la suite.
Commencé
par
en
la
fait,
suite pour pouvoir m'accompagner
harpe.
En fait. Oui, un petit peu la harpe aussi, mais mon premier instrument est le violon. Et puis le chant classique que j'ai commencé un peu plus tard, parce qu'il fallait que j'attende que ma voix, avoir ma voix d'adulte. Donc c'est aux États-Unis où j'ai beaucoup fait, enfin avant je faisais beaucoup de chorale et de chant en groupe. Et puis après, en rentrant des États-Unis, où j'ai commencé le chant classique au conservatoire avec Madame Berthaud Fontani aussi, que je remercierai toujours aussi. Et puis le CNR de Clermont-Ferrand. Et puis ça devait être un peu ça mon destin. Moi, c'est la fac de droit, c'était à côté au cas où. Mais moi, je voulais continuer le chant classique.
Alors, vous l'avez fait et vous avez fichtrement bien fait de l'avoir fait. Les années ont passé. Il paraît, vous allez nous dire si c'est vrai, il paraît qu'un neurochirurgien réputé aux États-Unis, le docteur Frederick Carrick, utilise votre voix dans ses travaux donc à l'hôpital concernant des patients plongés dans le coma, parce qu'il a découvert que votre voix émettait des ondes et des vibrations positives qui faisaient réagir ces patients. Là où les machines étaient totalement impuissantes, c'est vrai.
Au début, moi, j'étais un peu sceptique. Je me disais quand même, c'est bizarre cette histoire. J'ai creusé un peu, je me suis renseignée parce que je me disais, tiens, c'est dingue, sur ma famille, sur mes proches, ça n'a pas trop d'effet. Parfois, je les fatigue et je les saoule et ils n'ont plus envie de m'entendre. Et c'est vrai que c'était complètement incroyable comme histoire.
Mais comment vos disques sont-ils parvenus jusqu'à lui ?
Je ne sais pas, en fait, il est passionné par la France, la musique française. Il vient souvent en France faire des conférences. Donc je me suis un peu renseignée et effectivement, c'est de la musicothérapie. Il y a des fréquences dans la voix. Alors ça n'a rien à voir ni avec ma voix, enfin ni avec la langue dans laquelle je chante, ni mes chansons, ni le type de musique que je chante. C'est vraiment une fréquence dans la voix, apparemment, qu'il y a aussi dans certaines musiques, chez Mozart aussi. Enfin, il y a des fréquences. Donc c'est presque plus de l'ordre du son et presque c'est vraiment scientifique et c'est assez étonnant. Mais moi, je me suis toujours dit que la voix
là permet des connexions avec des malades
sur l'équilibre et sur le coma de sortir des gens. Apparemment, lui, c'est là-dessus, sur le coma et sur l'équilibre, en fait, la perte de l'équilibre. Il a fait des études très poussées là-dessus. Alors moi, je trouve ça complètement incroyable. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, moi, personnellement, alors pas avec ma voix du tout, parce que ça n'a pas du tout d'effet sur moi. Mais avec certaines voix, il y a des voix qui font du bien, puis des voix qui parfois on se dit qui sont un peu métalliques, ils font un peu mal à la tête. Puis il y a des voix qui apaisent et qui.
Donc, alors au début de cette conversation, je vous disais Madeleine, qu'en d'autres temps vous auriez été la fée Morgane qui, par ses pouvoirs, avait guéri le roi Arthur et Lancelot. J'étais pas loin de la vérité. Voilà, on s'interrompt un bref instant, on se trouve tout de suite, Nolwenn.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Sa voix ample de mezzo-soprano aurait pu faire d'elle une chanteuse lyrique. Elle a choisi la pop et la pop le lui rend bien. Je reçois cet après-midi Nolwenn Leroy pour la sortie de son nouvel album, J'aime. Ironise en France sur les chanteuses à voix, comme on a pu le faire par exemple avec Lara Fabian, vous répondez avec beaucoup d'humour. Alors, une chanteuse sans voix, c'est quoi ? Du mime ?
Oui, non, mais oui, c'est un peu.
Bon.
Non, mais c'est vrai, c'est pas une danseuse qui danse, ça me semble toujours.
C'est très français,
mais
ça,
oui.
Cette polémique.
Mais c'est parce que pour moi, la voix, c'est au-delà des portées de voix et des envolées lyriques et de pousser la voix. Enfin, pour moi, toutes les chanteuses, par exemple, une de mes chanteuses préférées, Françoise Hardy, est une chanteuse à voix parce qu'elle a une identité vocale et une voix que l'on reconnaît tout de suite. Donc, ça veut dire quoi, une chanteuse
à voix? Et parmi les chanteuses à voix, Adèle a mis tout le monde d'accord.
Mais je voudrais
savoir si vous avez le sentiment qu'en France, En fait, on ne chante pas tout à fait comme dans les autres pays. Par exemple, Céline Dion avoue qu'elle n'est pas la même chanteuse en France et aux États-Unis.
Certainement, mais je crois que ça fait partie de... Oui, de la French touch, de ce que de ce qu'on aime dans la chanson française, et à la fois
la
chanson française, la chanson à texte, mais à la fois aussi de la grande chanson française, des grandes voix comme Piaf. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais si on remonte quand même à ce qu'est la chanson française de base, la grande chanson française, de ce que cela représente à l'international, c'était quand même des chansons avec des textes magnifiques, de grandes mélodies et des grandes voix. Aujourd'hui, enfin, ça a beaucoup évolué, et aujourd'hui la French Touch, c'est aussi, ça a pris une autre dimension et c'est bien plus vaste. Mais c'est ça que je trouve fabuleux. Moi, j'ai du mal, encore une fois, je pense que la particularité française, surtout aujourd'hui en France, c'est de mettre les gens dans des cases aussi, et de labelliser les gens, et ça, c'est très très français pour le coup. Cette direction-là, que ça a évolué, c'est pas forcément une bonne chose.
Alors, Nolwenn, récemment, vous êtes frottée au marché américain, et votre réaction était que il faudrait vous installer à New York pour tenter vraiment l'aventure de façon optimale. Vous le ferez un jour? Par exemple, est-ce que vous pourriez vous déraciner ponctuellement, bien sûr, comme l'a fait une Marion Cotillard?
Bah, oui, non, mais après, dans le cinéma, c'est encore autre chose, même si c'est pas forcément une chose évidente, et elle l'a fait avec brio, et vraiment, c'est extraordinaire ce qu'elle a accompli. Mais c'est vrai que dans la chanson, bon, c'est très compliqué parce que, pour réussir à conquérir le marché du disque aux États-Unis, il faut vraiment passer du temps là-bas. Il faut bien sûr chanter en anglais, mais en promo dans chaque état, faut investir beaucoup d'argent. Les maisons de disques doivent investir beaucoup d'argent dans la promo, parce que c'est être présent sur place avec des musiciens, faire les trajets dans tous les états. Les États-Unis, c'est un grand pays aussi, donc c'est ce que l'on fait en France, à Paris. Là-bas, il faut le faire dans chaque état, dans chaque grande ville. Mais c'est vrai que voilà, il faut passer du temps. Et moi, j'avais beaucoup de choses à faire ici aussi, et j'avais ma tournée, et voilà, il y en a qui le font très très bien. Zaz le fait formidablement bien, et tourne beaucoup à l'étranger, des gens comme Christina Le Queens aussi, comme Stromae.
Vous vendez des disques jusqu'en Corée du Sud?
Ouais, bah oui, non,
vous
mais c'est vrai qu'on a vendu
en Corée du Sud.
Non, pas encore, mais en Allemagne pas mal. On a vendu beaucoup de disques en Allemagne, et j'ai fait pas mal de promos en Allemagne, on a fait quelques concerts. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Et puis aussi, il faut dire aussi que je suis quelqu'un qui travaille seul, et je dis souvent que j'ai pas un aéropage de managers et de staff autour de moi, mais c'est peut-être là où, autant en France, c'est parce qu'au bout de 15 ans, je connais tout le monde, et c'est vrai que je gère pas mal en direct avec tout le monde, parce que c'est plus simple, et puis parce que là, j'aime bien parler en mon nom aussi, et ça se passe bien comme ça, donc je fais comme ça. Mais lorsque l'on envisage de s'exporter et que l'on ambitionne une carrière à l'étranger, il faut avoir un staff, et il faut avoir à un moment donné quelqu'un qui va faire du lobbying. Et moi, c'est vrai que j'ai pas cette équipe-là aussi, donc il faudrait peut-être que je me structure un peu différemment. Je dois dire que voilà, c'est comme ça, et il faut organiser les choses pour que les choses se passent aussi.
Nolwenn, je voudrais évoquer quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée à l'époque. Il y a 2 ans, aux Invalides, par une cérémonie grave, très solennelle, l'Élysée a rendu hommage aux victimes des attentats terroristes. Alors, le monde politique était présent dans cette cour des Invalides, et puis les Français regardaient cette cérémonie à la télé. Et vous avez chanté, et le temps s'est arrêté. Vous avez interprété « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel, avec Yael Naïm et Camélia Jordana. J'aimerais savoir, quand on chante dans un contexte aussi bouleversant et solennel, dans la cour des Invalides, on chante les yeux fermés ou grands ouverts?
On chante les yeux fermés parce que l'on s'oublie, en fait. On était 3 voix, en fait, qui s'unissaient pour essayer d'apaiser le chagrin et la douleur. Et effectivement, il y avait tout le monde politique, mais il y avait surtout les familles. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas si l'on doit accepter. On ne sait pas ce qui est d'usage, en fait. Enfin, il y a pas de précédent, en fait. On peut pas imaginer à un moment donné que l'on va devoir chanter lors d'un tel événement, d'une telle tristesse et d'une telle horreur. Et effectivement, j'ai mis du temps avant d'accepter. Je crois que quand il n'y a pas de mots, et parfois dans la voix, d'ailleurs, dans tous les peuples, et ça a toujours été une façon de fédérer dans les grands bonheurs de la vie, et à la fois dans les grands malheurs aussi, parfois une façon de de communiquer lorsque
oui, une prière de... qui monte ouais, vraiment absolument. Directement
et je crois que c'est ce qui s'est passé ce jour-là et au-delà de ça aussi cette chanson magnifique a pris toute son ampleur ce jour-là et c'est fou parfois de se dire que ces chansons n'ont pas forcément été écrites pour cette occasion-là. Et à ce moment-là, elle se révèle comme jamais. Et là, on était là, voilà, comme trois voix. On n'était pas trois artistes ou les personnalités que nous sommes étaient tous s'est effacé ce jour-là. Le temps s'est arrêté. Et
alors, justement, voilà. C'était parfaitement à la fois à l'unisson et complémentaire. Vous êtes vus combien de fois avec Yael Naïm et Camélia Jordana pour unir vos interprétations avant de faire monter ensemble vos voix?
On s'est vus une fois parce que Yael était en tournée, était très occupée, puis Camélia aussi, puis moi. À ce moment-là, j'étais dans le sud et on s'est retrouvés en fait dans le sud parce que Camélia était aussi chez elle là-bas et Yael avait une date de concert pas loin. Et en fait, on s'est retrouvés dans une salle, c'était très très bizarre, dans une salle de réunion d'un hôtel qui nous a accueillis, enfin voilà, à l'abri de tous les regards, mais vraiment dans un endroit très un peu perdu. C'était juste, voilà, pour se rencontrer, pour pouvoir répéter un peu ensemble avant, parce qu'il n'y aurait pas d'autres occasions. Et on a travaillé, voilà, il y a avec sa guitare, et puis des arrangements vocaux, des chœurs, où les voix se mélangent, se mêlent, et de manière très, très harmonieuse comme ça, mais à la fois très sobre. Et je sais qu'on voulait faire au mieux et être le plus subtil et le plus sobre possible.
Et c'est passé.
Et que les voix s'élèvent au plus haut et laisser toute la place à ce chagrin-là et à la fois à ces mots, à ce texte aussi sublime. Et je pense qu'on a réussi à faire ça.
Absolument.
Oui.
Alors quand on chante ainsi, Nolwenn, on est plus qu'une chanteuse. On est déjà presque une tragédienne. Vous avez le physique d'Adjani. Vous avez un feu intérieur, une densité. Est-ce que vous aimeriez que le cinéma pense à vous pour des rôles inattendus ?
J'adorerais pouvoir un jour le faire et le faire avec les bonnes personnes et sur le bon projet. J'aurais tendance à dire que oui, en France, c'est plus chic lorsqu'on a une actrice qui pousse la chansonnette plus que la chanteuse qui va jouer dans un film. Il y a des exceptions qui confirment la règle, hein. Mais quand même, je pense que dans l'histoire, on retiendra plus l'actrice qui chante que la chanteuse qui joue. Enfin, je pense. Mais voilà, c'est pour ça que plutôt que de faire quelque chose qui de moyens et de... Voilà, moi je suis chanteuse avant tout. Si un jour on pense à moi et que je suis bien accompagnée sur un projet fabuleux et que... Et encore une fois, bien accompagnée, parce que j'aurais besoin qu'on m'accompagne sur ce chemin-là et qu'on me mette en confiance aussi, parce que
Il a été question de le faire. De théâtre avec Francis Huster.
Ouais, bien sûr. Mais
il y a
peut-être
quelques
qu'on fera
temps.
Un jour, bien sûr. À chaque fois, on se revoit et à chaque fois, il me dit, mais c'est pas possible, mais il faut qu'on y aille, il faut que tu te décides et il faut que. Et puis, il est extraordinaire et il me porterait vraiment pour le coup. Enfin, ça serait extraordinaire parce que c'est au-delà d'être un acteur immense, c'est aussi quelqu'un qui a été professeur. Donc, ça serait certainement une excellente personne pour faire mes débuts. Donc, pourquoi pas? Oui, bien sûr, prochainement, j'aimerais mal fait. Et puis commencer par le théâtre aussi, c'est commencer par peut-être ce qui est le plus difficile. Donc on met la barre très haut, mais à la fois, ça serait un challenge qui m'intéresserait, vraiment.
On retrouve tout de suite Nolwenn.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est Morizet. Nolwenn Leroy qu'on se balade cet après-midi et c'est épatant. Cher Nolwenn, vous avez confié, si aujourd'hui je revivais l'aventure de la Starac, je me débrouillerais pour ne pas gagner.
Ah, pour ne pas gagner. À la fois, ça serait à refaire, je referais tout pareil et je, c'est en aucun cas, ça ne remet pas en question ma participation à l'émission. Bien au contraire, je referais tout pareil parce que j'ai été révélée par le public, grâce au public, et c'est la plus belle des manières que de se faire entendre, d'être choisie par le public. Donc ça, c'est quand même une grande fierté pour moi aujourd'hui d'être une artiste populaire dans tout ce que ça a de beau et de, justement, de péjoratif comme beaucoup de gens aujourd'hui lorsqu'on emploie le mot populaire dans l'artistique. Pour moi, c'est une chance et c'est une fierté. Mais non, ne pas gagner, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui tous les artistes révélés par les radio-crochets, les télé-crochets. Bon, les médias sont beaucoup plus tendres aujourd'hui. On a compris qu'aujourd'hui, finalement, c'est un vrai révélateur de talent.
Vous avez eu le sentiment que les cartes pour vous, à l'époque, sont restées brouillées un certain temps.
Bah nous, quand même, on a essuyé les plâtres pendant quelques années. On a quand même, il fallait reconstruire petit à petit les choses. Enfin, même même pas reconstruire, construire progressivement, parce que c'est vrai que cette fulgurance forcément faisait que beaucoup de médias nous tapaient dessus un peu en disant qu'on méritait pas d'être là, que c'était trop rapide, qu'on n'avait rien fait effectivement, et c'était justifié d'une certaine manière. Oui, c'est sûr que bon, soudainement tous les projecteurs sont sur nous, alors on est connu pour notre célébrité à ce moment-là, pas forcément pour ce que l'on a accompli, même si on était tous musiciens, que moi j'ai pas découvert la musique à ce moment-là, j'étais au conservatoire, donc il y avait quand même une légitimité, on n'était pas là comme ça par hasard. Encore une fois, on était musiciens et c'était une école comme ça d'art, de danse, de chant, de théâtre, et moi j'ai vraiment vécu cette expérience comme ça au premier degré. J'avais la chance d'être sélectionnée pour suivre ces cours-là et j'ai adoré le faire, et après enregistrer ce premier album et puis rencontrer le public. Mais c'est vrai que les premières années ont été difficiles et on n'était pas invité partout et on n'avait pas la carte et c'était compliqué. Et encore, je vous dirais encore aujourd'hui, beaucoup, bien sûr.
Aujourd'hui encore ?
Ah oui.
Les albums se sont succédés. Et lorsque votre album Bretonne, en plein marasme du marché discographique, a provoqué un véritable raz-de-marée, un raz-de-marée historique, il paraît que les gens du métier, en fait, ont été plus que surpris. La plupart ont dû ravaler leur certitude parce que beaucoup avaient affirmé des reprises de chansons bretonnes, c'est le flop assuré.
Bah oui, en plus, je sortais d'un album qui était un peu indé, où j'avais écrit mes chansons. J'étais partie aux îles Féroé avec un ami auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Taytour. Et c'était un projet sur lequel j'adorais travailler, écrire mes chansons. Et c'est pour moi le plus bel album même que j'ai fait jusqu'à présent, enfin à ce jour. Mais qui n'avait pas forcément eu un succès commercial. Donc, enchaînée sur un album comme Bretonne, on me disait, mais là, elle va s'enterrer, deux albums de suite, c'était
compliqué.
Pour les
maisons de disques, ah, c'était
oui.
Suicide.
Oh bah pour les médias surtout, on m'a dit c'est un album qui est bretonne, destiné à une niche, ça marchera jamais. Et voilà, donc c'est vrai que je dois tout aussi au public, encore une fois, qui s'est approprié ce projet, bien sûr en Bretagne, mais au-delà de la Bretagne aussi, partout en France, et c'est devenu effectivement, c'est indescriptible l'ampleur que ça a pris.
Vos émerveillements face aux voix, Nolwenn. Vos émerveillements, ils jaillissent à l'écoute de Kate Bush, de Billie Holiday, de La Calas. Mais par exemple, qui écoutez-vous en ce moment ?
En ce moment, mais justement, moi j'ai toujours trouvé cette musique celte, elle est présente dans le travail de Kate Bush, de Sinéad O'Connor, même de U2. Je disais, cette musique celte à la base de la musique pop, de la musique anglaise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, cette musique aussi, on la retrouve chez quelqu'un comme Ed Sheeran, par exemple, qui sort là son dernier single, qui est une chanson vraiment, vraiment celte, enregistrée avec un groupe justement irlandais, sur un album qui est totalement éclectique, avec des chansons très différentes. Et moi, c'est ça que j'adore chez un artiste comme Ed Sheeran, qui est à la fois fier de ses racines et de sa passion pour la musique celte et de son enfance aussi, justement. Et puis aussi de ce qu'il écoute aujourd'hui et de l'artiste qu'il est aujourd'hui, de ses compositions personnelles. Et c'est ça que j'adore, justement, de pas être justement dans une case, de pouvoir sortir un album avec des chansons différentes. Et voilà, ça, c'est la force, justement, que je disais, d'artistes comme lui, d'artistes internationaux, et qu'on aimerait pouvoir faire en France aussi. Voilà.
Ce nouvel album, J'aime, il va provoquer une tournée en 2018. Qu'est-ce que vous imaginez pour cette tournée que vous n'avez pas encore expérimenté en 15 ans de métier?
Qu'est-ce que j'imagine? Moi, cet album, il a vraiment été fait pour la scène. Tout ramène à la scène, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de l'imagerie, des visuels, parce que qui dit j'aime dit pierre, lumière, lumière, brillance, qui dit lumière dit scène. Donc on va décliner tout un petit monde sur scène qui va vraiment, ça va se prêter parfaitement à ça. Et puis,
c'est vous et votre mère qui écrirez la scénographie.
Ah oui, pour le décor aussi, ouais, toujours. Bah, tout ce qui est l'identité visuelle, on travaille toujours ensemble. Comme je vous disais, moi, je travaille de manière artisanale. Je fais ma petite cuisine dans mon coin. Et c'est pour ça que parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais ça a le mérite d'être très, très personnel, justement. Et ça me correspond. Et tout est lié, tout est cohérent. Rien n'est laissé au hasard. La musique, l'image, tout est... Je raconte vraiment une histoire à chaque fois. C'est vraiment ce que j'essaie de faire lorsque j'écris mes chansons au départ. Je vois des images, je vois un film et j'essaie de décliner ce film au fil de... des chansons qui sont extraites de l'album et puis de la tournée, parce que c'est, je crois, c'est un peu ce rendez-vous aussi avec le public. Lorsque j'ai présenté l'album là, il y a quelques jours, je vois à quel point les gens, même sur internet, je vais un petit peu, même si je suis pas la spécialiste des réseaux sociaux, mais je vois un peu les retours et la rencontre finalement avec le public, enfin des chansons, et à quel point ils s'approprient les chansons, qu'ils voient certains sens cachés, certains y voient ce qu'ils ont envie d'y voir, et c'est ça que j'adore aussi, de ma manière d'écrire un peu métaphorique. Du coup, c'est très intéressant d'avoir le retour du public aussi.
Elle démarrera quand cette tournée ?
Début 2018.
Tout début.
Ouais. Début de l'année. Ouais, on sera prêt. On sera prêt, je pense, au tout début de l'année. Ouais.
On retrouve tout de suite Nolwenn Leroy.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Nolwenn Leroy. Michel Polnareff a un astéroïde à son nom, découvert en 2002 et référencé dans la ceinture principale des astéroïdes, donc sous le numéro 99824. Mais il n'est pas le seul, Polnareff. Non, puisque vous aussi...
J'ai une constellation, vous avez... il me semble. C'est une constellation ou une étoile ? Non, c'est une étoile, je crois.
Ah, mais c'est plus chic encore. Vous avez une étoile référencée
très, très, très
sous le numéro 353 232.
Ah oui.
C'est un joli hommage pour quelqu'un qui vit dans un monde onirique, comme ça, gouverné par les forces et les mystères de la nature.
Je trouve ça très, très beau. C'est le public qui m'avait offert ça. Je crois que c'est pour mon anniv. Enfin, c'était un cadeau. Et je trouve que c'est tellement poétique comme cadeau que d'avoir une étoile, un certificat. On a une étoile à son nom, voilà. Je trouvais ça très très poétique et très beau.
Mais vous dites le public m'a fait ce cadeau, mais elle existe l'étoile.
Ah
attention.
Oui, l'étoile existe bien sûr, mais on espère un jour pouvoir s'y rendre ou aller la voir en vrai.
Bon, vous vous définissez comme une athée mystique. En quoi croyez-vous ?
En quoi je crois en l'homme et à sa capacité à aller vers le beau et vers la lumière et à espérer et à combattre pour la paix, comme je le dis aussi dans une des chansons de l'album, et à apprécier le monde dans lequel on vit. On a la chance d'avoir vécu, en fait, d'avoir vécu sur cette planète. Moi, c'est souvent ce que je me dis, et ça c'est une chance. Donc moi, je crois en ça, en fait, en la beauté de la planète et de certaines rencontres que l'on fait, de certaines personnes que l'on croise, de certains regards, de certaines mains que l'on tient.
J'ai reçu très récemment Laurent Voulzy. Par rapport à Alain Souchon, il dit lui être toujours dans l'espérance, alors que est plutôt dans la mélancolie et un désespoir ironique.
Et moi,
en
je
même
me
temps,
situe
et
à peu
vous,
près
vous
au milieu.
Au milieu.
Exactement. C'est-à-dire que j'ai plutôt une tendance souchonesque de nature, mais je tends vers une tendance voulziesque. Et oui, parce que je crois que c'est peut-être ce que j'ai vécu aussi ces derniers mois qui
vous transporte.
Oui, parce que je me dis, quand on s'apprête à donner la vie, je pense qu'on a envie de se dire, même si on est dans un peu le sombre en ce moment et la noirceur, et on vit des choses très très difficiles, on a envie d'espérer, en fait. On a envie de se dire que quand même, à un moment donné, on va s'en sortir, on va vers cette lumière dont je parlais.
Alors effectivement, Nolwenn, il y a quelqu'un qui va avoir une sacrée emprise sur vous désormais. Il s'appelle Marin, il a presque 2 mois. Qu'est-ce qu'il a déjà révolutionné dans votre vie ?
Je suis bouleversée parce que c'est un bonheur immense, et on peut pas imaginer, en fait, une seule seconde avant de l'avoir vécu, aimer autant un petit être que l'on connaît depuis si peu de temps et qui entre, qui aujourd'hui est tout, et ma vie, et c'est complètement, c'est...
Voilà.
Là aussi, il n'y a pas de mots.
Et là, Nolwenn Chavir. Voilà. Mais, cher Nolwenn, en même temps, vous avez déclaré, et là, il y a quelques jours, vraiment, je remercie Beyoncé, Marion Cotillard et Léa Salamé, qui prouvent à tout le monde qu'on peut être mère sans s'arrêter de travailler, ni même ralentir le rythme. Donc, je vous préviens, je serai artiste et maman à plein temps. Donc,
c'est
partir
sport,
en tournée. Oui, c'est sport, comme vous dites. Partir en tournée
pas trop
en 2018.
J'ai congé maternité. J'ai terminé le 6 et c'était le 12. Enfin, voilà, j'ai pas eu ni d'avant ni d'après, mais, comme toutes les femmes françaises qui essaient de gérer, qui font du mieux qu'elles peuvent.
D'une manière très, très pratique, et factuelle, Nolwenn, pour la tournée en 2018. Donc vous ne craignez pas de passer à côté de moments précieux et éphémères, puisqu'il s'agit d'un petit dôme qui pousse, grandit et change de jour en jour.
Ouais, non, mais non, parce que, enfin, moi, on se quitte pas, en fait. Je fais les deux en même temps et c'est un bébé tout terrain.
Vous allez l'emmener.
Ouais, le bébé tout terrain. Et oui, non, mais je l'emmène parce que j'ai un métier aussi, même si je fais comme tout le monde et comme toutes les femmes en France, j'ai la chance, en revanche, de pas aller au bureau et de pas avoir, on peut être ensemble et ne jamais se quitter et réussir à gérer un peu tout en même temps. Donc, mes absences, elles sont jamais trop longues.
Maintenant, voilà. Avec un bébé, ça serait bien de passer le permis, non?
Ah, mais ça y est, je l'ai passé,
non,
le permis. Mais
vous
si,
l'avez
l'an
fait,
dernier.
Bravo.
Mais oui, oh là là. Oh la main, du premier coup. Bon, après, bon, c'est vrai que c'est pas, j'aime pas trop conduire non plus, toujours. Et à Paris, je conduis que lorsque je suis en Bretagne ou en Provence. Mais c'est vrai que. À Paris, non, je prends toujours pas la voiture.
Pourquoi avez-vous repoussé la proposition d'être juré dans The Voice?
Pourquoi? Parce que, bah, justement, parce que il y a beaucoup de choses cette année. Il y a la tournée, il y a l'album, et puis personnellement, je vis beaucoup de choses qui sont, comme je disais, je veux pas louper une seule seconde de ces moments-là. Donc je les consacre à mon métier, et à l'album et à la tournée, et pas à des choses annexes. Et c'était pas le moment pour ça. Mais après, je serais peut-être ravie de le faire plus tard, parce que je trouve que c'est un beau programme, une belle émission avec de belles personnes. Et comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui, je trouve que les choses sont mieux faites. Je pense qu'on a appris aussi
aujourd'hui
oui. de toutes les expériences d'avant de la Starac, et ça a beaucoup évolué depuis. Et je trouve que c'est un vrai programme de qualité aujourd'hui. Donc en faire partie un jour en tant que juré, pourquoi pas? Et ça serait vraiment un honneur si j'arrive à le faire, parce que c'est difficile avec le parcours que j'ai de se retrouver dans cette position-là, parce qu'on est forcément, on a un regard
mais
différent,
vous
serez plus on est dans l'empathie.
Oui, puisque ouais, vous connaissez les coulisses.
Moi, je pense que ça me poursuivrait aussi jusqu'à la maison et que j'aurais du mal à fermer la porte en me disant, on a quand même une responsabilité vis-à-vis des candidats. Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'aurais besoin de me préparer aussi. Tout ce que je fais, je le fais sérieusement et parfois un peu trop, et du coup, bon. Voilà, c'est pas anodin, donc je me laisse un peu le temps.
Alors, chère Nolwenn, on arrive, hélas, déjà à la fin de notre balade. Une ultime question, Nolwenn. Est-ce que, parfois, quand vous le regardez dormir, marin, est-ce que vous prenez à imaginer toutes les vies qui vont s'offrir à lui lorsqu'il aura deux têtes de plus que sa maman ?
Bien sûr, parce que c'est à la fois le plus grand bonheur et à la fois le... la plus grande responsabilité aussi d'une vie que de d'élever un enfant et de le faire grandir et que ça soit un adulte accompli et indépendant et qui fasse les bons choix et qui suive son propre chemin, pas celui de ses parents, et qu'à la fois qu'il arrive aussi à s'émanciper. C'est pas facile aussi de grandir avec des parents qui font un métier public aussi.
Mais oui.
Donc sincèrement, j'y pense et comme je disais tout à l'heure, j'espère faire du mieux que je peux et me dire qu'il choisira son propre chemin, sa propre voie, quelle qu'elle soit, et que je serai toujours là pour le soutenir, peu importe la voie qu'il choisit, que ça soit la musique, le sport ou autre chose, ou la peinture sur soie.
Puisque sa maman a une étoile à son nom déjà,
voilà,
il sera peut-être astronaute.
Voilà, absolument. voilà, c'est bon. Encore une fois d'être là et de me soutenir dans ses choix et dans ses envies. Et à la fois, voilà. Encore une fois, comme toutes les mamans du monde, la seule différence, c'est que c'est parfois un peu compliqué avec ce qu'on fait, mais voilà, il faut en être conscient et faire du mieux qu'on peut.
Ce qui est certain, Nolwenn, c'est que lorsqu'il aura 20 ans, ben, il écoutera avec beaucoup d'émotion l'album né en même temps que lui. Un album puissant qui vous embarque dans un vrai voyage. Un album qui a pour titre J'aime, G-E-2-M-E. Plein de baisers à votre petit
Merci
prince.
Beaucoup. Merci.
Et puis, que la route soit belle.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.